Et oui, ça va commencer. Si je vous dis Mona Lisa, à quoi vous pensez? Bon, évidemment, vous allez me dire la Joconde. Eh ben non. Non, non, et pour en parler justement, eh bien figurez-vous que j'ai trois personnes, on dit toujours jamais 203, eh bien là c'est le cas ce matin. Bonjour à Georges Bray, bonjour Georges.
Bonjour, bienvenue, alors, merci pour votre accueil Bruno.
Je vous en prie, délégué fédéral, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je suis responsable de la Fédération des Centres Sociaux de Charente, et qui a pour mission donc de coordonner Mona Lisa, on va en parler tout à l'heure, mais donc la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Bienvenue, mon cher Georges. À côté de vous, en face plutôt, il y a Annabelle Vaudon, qui est la référente accompagnement. Ah ben, j'ai besoin d'accompagnement, ça tombe bien. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci.
Impeccable. Référente accompagnement, bon, on a une petite idée de ce que ça veut dire, mais en quelques mots.
Ben, c'est effectivement dans cette lutte contre l'isolement des personnes âgées où on accompagne tout un tas de personnes qui ont besoin, et notamment tout ce qui est de l'ordre de la formation et puis de répondre aux questions qu'ils se posent lorsqu'ils rencontrent des personnes isolées.
Voilà. Et notre troisième invité n'est autre que le référent communication. Il s'appelle Thibaut Perron et il est avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour Bruno.
Alors nous, on se connaît à travers le téléphone et les mails.
Et oui, puisque responsable communication, j'ai eu la chance d'échanger avec Bruno.
Voilà, c'est ça, on se connaît bien maintenant.
On commence.
Non, ça va. Bon, tous les trois, merci d'avoir accepté l'invitation de RDC, d'être partenaire. Hein. Finalement, on est partenaire avec vous maintenant, ça y est. On s'est accroché, on ne se lâche plus. Alors, pour démarrer, qu'est-ce que Mona Lisa? Parce que tout le monde, ceux qui nous écoutent, se posent la question depuis une semaine que je commence à parler de cette émission spéciale. Donc, on veut maintenant savoir qu'est-ce que c'est. Hein. Qui prend la parole?
Je veux bien commencer, moi. Donc, Mona Lisa, effectivement, comme Georges l'a dit, c'est la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Tu l'as dit aussi, Bruno, effectivement, c'est pas la Joconde, c'est ni une race de pommes de terre. C'est un engagement qui veut essayer de lutter contre ce fléau qui est l'isolement. En fait, lorsqu'on demande aux personnes, pour vous, c'est quoi l'isolement? Souvent, on a des mots assez négatifs qui ressortent, hein, le désespoir, l'attente, la rupture, le manque d'envie, la solitude aussi, cette voie sans issue. Et puis, l'isolement, si on va plus loin, c'est qualifié d'une situation dans laquelle on se trouve, où se trouve une personne, du fait de relations qu'on dit durablement insuffisantes par leur nombre et leur qualité, et qui se trouve effectivement en situation de souffrance et parfois de danger.
Alors justement, parmi ces personnes âgées, il y en a sûrement qui nous écoutent, parce que nous, justement, notre auditoire, c'est des personnes d'au moins 60 ans et plus, hein, donc dites personnes âgées, seniors si vous voulez, et c'est plus de 1,5 million apparemment qui souffrent d'isolement.
Oui, c'est vrai, les personnes de plus de 60 ans sont ce qu'on appelle un public à risque et donc très confrontées, entre guillemets, à ces situations d'isolement. Bon, l'isolement, c'est pas forcément une question d'âge, mais en nombre, effectivement, les personnes de plus de 60 ans sont majoritairement représentées. Ça s'explique, hein, si vous voulez.
Oui, c'est ça, c'est dû à quoi, en fait?
En fait, si on représente la vie d'une personne à travers un arbre, par exemple, donc un arbre, il y a le tronc, et puis il y a énormément de branches, et notamment 5, et ces 5 branches représentent les relations qu'on a avec les personnes. Donc effectivement, quand on est en activité, il y a déjà la branche professionnelle, il y a la branche de l'implication dans les associations, de la vie sociale, entre guillemets, il y a la branche familiale, la branche amicale, et puis la branche qu'on appelle nous affinitaire, hein, c'est la branche effectivement des rencontres qu'on va faire avec le boulanger, avec le commerçant du coin, des choses un petit peu comme ça. Et le fait du vieillissement naturel, plus on avance en âge, en fait, et plus notre arbre perd des branches et perd des feuilles.
Ça voudrait dire que les gens se mettent un peu plus en reclus?
Pas par la force des choses. Par exemple, le passage à la retraite, souvent la branche des relations professionnelles s'arrête. Ou perdure quelques semaines, quelques mois, mais s'arrête, puisqu'il y a un autre rythme qui est fait. Et le fait de ne plus aller se lever le matin pour aller travailler, rompt ces relations, entre guillemets, qu'on a avec des collègues, avec des gens qu'on rencontre, des partenaires, des choses comme ça.
Et on a par exemple également du côté de la famille, par exemple aussi, ou notamment en Charente, on a beaucoup d'appels d'enfants, par exemple, qui s'inquiètent de leurs parents qui vivent toujours en Charente. Et les enfants n'habitent plus en Charente, en fait, ont quitté effectivement le département. Donc on a ça aussi, ce côté familial, en fait, ou des...
L'éloignement.
Voilà, l'éloignement des familles qui partent vivre ailleurs.
Et puis la branche amicale, plus on avance en âge, effectivement, et plus on voit disparaître aussi les amis.
Par les décès.
Par les décès, oui. Donc il y a un travail de deuil à faire tout au long de sa vie et de voir en fait que son arbre perd ses branches et favorise ces situations d'isolement. Voilà.
Alors, on va continuer à parler, bien entendu, parce qu'on va aussi avoir, hein, entre ces temps de parole, des pauses musicales, bien entendu, que Thibaut nous a proposé une liste. Vous avez peut-être contribué, d'ailleurs. Tu as contribué, Annabelle ?
Pas vraiment. J'ai laissé les garçons...
Le faire.
Voilà, exactement.
Bon, vous pourrez intervenir, en tous les cas, mesdames, messieurs, si vous avez des questions aussi à poser, aussi bien à Georges qu'Annabelle ou à Thibaut, selon ce qui va être dit ce matin. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble. Vous avez du temps. Si vous désirez nous contacter, je vous redonne quand même notre numéro, au cas où vraiment vous n'en rappelez pas, 05 45 95 09 87. Et ça tombe bien, parce que notre première chanson, figurez-vous que c'est Nino Ferrer. Allô, le téléphone, bah ouais, ça sonne, hein. Mais c'est vrai que c'est important, le téléphone qui sonne. Bah tiens, c'est important. Et ça tombe très bien, parce qu'on a nous aussi quelqu'un au téléphone en ligne. Vous allez être contents, je crois, messieurs et madame. Allô, allô, bonjour.
Allô, oui, bonjour tout le monde. Bon, ils m'ont pas reconnu.
Ils n'ont pas reconnu, je crois pas. Hein.
Ah non.
Devinez qui c'est.
Edmond Moreau.
Elle est Edmond Moreau, et vous la connaissez très bien.
C'est l'ISAM. C'est l'équipe de l'ISAM.
Ah bon.
Ça commence par un H.
Mais de toute façon, si je leur parlais en patois, ils comprendraient. Oui, Oui, c'est Hélène de Montmoreau. Donc, je viens vous soutenir, je viens soutenir l'association, parce que, bon, je vous connais, je vous côtoie plus ou moins les uns les autres. Moi aussi, je côtoie les personnes âgées, je viens leur aider, je fais ce que je peux. Alors, écoutez, je vous soutiens. Je pense que vous allez passer une bonne matinée à RDC. Je connais la radio, hein, j'y vais de temps en temps. Alors, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne émission, puis à bientôt.
Tu vois, tu les as laissés sans voix, finalement.
Merci, Hélène. Hélène, vous êtes de quelle équipe? Vous êtes dans une équipe citoyenne de Mona Lisa?
Ah ben, moi, je fais partie de l'association de Lisa. La Montrouge et tout ce qu'on peut imaginer à Montmoreau, donc je côtoie quand même les personnes.
D'accord, très bien.
Voilà, ok.
Ben, merci à vous. Et merci pour ce que vous faites.
Alors, je vous souhaite une bonne journée.
Merci bien, vous aussi.
Merci, bonne journée, au revoir.
Bonne journée.
Voilà, c'était tout simplement un petit clin d'œil. Hein.
Super.
Elle m'en parlait au téléphone, puis je dis, bah, attendez, vous allez plutôt leur parler, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, alors on en était à savoir ce qu'était Mona Lisa. Annabelle.
Oui, enfin, alors, effectivement, avant de parler de Mona Lisa, c'est cette lutte contre l'isolement, c'est ce qu'on disait. Et puis les gens peuvent se demander, mais en fait, est-ce que je suis ou pas en situation d'isolement? Donc je pense que c'est important d'arriver à définir ce qu'on entend par une situation d'isolement. Je vous parlais tout à l'heure qu'en fait, ça dépendait du nombre de rencontres, de contacts qu'on avait dans une journée ou dans une semaine. Donc pour les définitions, en fait, on dit qu'il faudrait au moins avoir 4 contacts d'ordre privé avec des personnes différentes par semaine. Donc 4 contacts, ça ne veut pas dire, effectivement, il y a des personnes qui peuvent avoir des services d'aide à domicile. Donc 4 contacts, ce n'est pas la personne qui va venir faire préparer le repas, le ménage ou autre chose. C'est 4 contacts d'ordre privé. Donc soit dans le réseau amical, soit dans le réseau familial, soit dans le voisinage. Et puis la qualité, c'est quelque chose en fait qui dit je compte pour quelqu'un, je sais que je compte pour quelqu'un et quelqu'un peut compter sur moi. Si on n'a pas ça, ce nombre et cette qualité, effectivement, on peut se retrouver en situation d'isolement social. Voilà. Et qui provoque l'état de souffrance, cet état prolongé de douleur physique ou psychique notamment, hein, puisque c'est aussi ça qui fait énormément de dégâts.
Alors la petite mamie par exemple qui est en train de nous écouter, admettons qu'à 80 ans, qui vient de perdre peut-être son mari il y a déjà 2-3 ans, et qu'elle voit peut-être pas grand monde parce qu'elle a ou plus de famille ou éloignée, comme disait tout à l'heure Georges, et elle pense quoi dans sa tête cette mamie? Elle se dit « mais moi j'ai pas mes 4 personnes que je vois dans la semaine ».
Oui, oui. Après, effectivement, ces 4 personnes, bon, ça reste un chiffre. Il y a des gens, il ne faut pas confondre non plus le phénomène d'isolement avec le phénomène de solitude. Il y a des gens qui choisissent d'être seuls et que ça convient très bien.
C'est ça.
Et j'ai envie de dire, ça se respecte. Et justement, il ne faut pas aller, entre guillemets, l'enquiquiner avec des chiffres en lui disant « mais non, vous ne voyez pas 4 personnes différentes, donc vous êtes peut-être en situation d'isolement ». Si ça convient à la personne, ça pose aucun problème. C'est lorsque la personne, en fait, que ce phénomène d'isolement, elle le subit, et ça ne lui convient pas, c'est à ce moment-là que ça a des effets sur la santé, hein, avec un fort sentiment d'inutilité, une perte de l'estime de soi, un repli sur soi aussi, puisqu'on a beau se dépatouiller, entre guillemets, avoir toute la meilleure volonté du monde, on le subit, ce système d'isolement, en fait. On ne le voit pas venir, quelque part. On se dit aussi que comme on avance en âge, c'est quelque chose de normal. Ben non, c'est pas quelque chose de normal d'être isolé. On subit les choses, quoi.
Mais est-ce que c'est pas dû aussi à la société d'aujourd'hui? Parce que le monde va très vite. Les personnes âgées sont peut-être laissées de côté. Malgré, bon, je ne parle pas bien sûr de toutes les associations qu'il peut y avoir d'aide caritative, etc. Hein. Je parle vraiment de la vie de tous les jours.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas dû à ça aussi, finalement?
Certainement, il y a plusieurs facteurs, hein, qui contribuent à ce phénomène d'isolement très dernièrement. Enfin, là, les années Covid qu'on vient de traverser ont été très révélateurs aussi, notamment mis en lumière auprès des pouvoirs publics, ben, ce phénomène et ce fléau qui est en train de ravager des gens qui le subissent depuis des années, en
c'est
fait.
Ça.
Mona Lisa, genre, je vous en parlerai mieux tout à l'heure, mais effectivement, c'est vraiment cet engagement premier de se dire, attention, il y a des gens qui subissent ça, qui le vivent tous les jours, comment on peut agir pour retarder en fait ces effets de, sur la santé, parce que ça a vraiment des ravages sur la santé. Ça accélère toutes les pertes d'autonomie. On comprend bien qu'une personne qui est seule à son domicile et qui souffre d'isolement, malgré la volonté des familles de proximité et tout ça, c'est vraiment un ressenti, l'isolement. Et donc ça a des effets sur, sur sa santé, on arrive à des idées un peu plus dépressives, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires, des idées beaucoup plus noires, le manque d'envie, le manque de tout un tas de choses en fait. Et c'est là où il faut agir en amont. C'est là où il faut être un petit peu plus vigilant auprès de ces gens-là. Voilà.
Mieux dans sa tête, donc mieux dans son corps.
Oui. On ne peut pas vivre tout seul. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. C'est-à-dire qu'on ne peut continuer à se développer, quel que soit son âge, en étant au contact avec les autres. Et notre présence ici et notre boulot de chaque jour, c'est comment, effectivement, on met des choses en place pour permettre aux gens de se rencontrer et de garder du lien. Pour réduire ce nombre-là de 4 ou pas. Enfin, le chiffre n'est pas très important parce qu'en fait, on peut avoir une personne et l'avoir tous les jours et on ne va pas souffrir d'isolement. 4, voilà, c'est une moyenne, c'est qu'à un moment donné, il faut des chiffres, il faut une définition. Mais au-delà de ça, effectivement, ce qui est important, c'est de sentir qu'on compte pour quelqu'un. Garder ce sentiment d'utilité et puis se dire, cette personne-là aussi, elle peut compter sur moi, je suis là pour elle. Voilà.
Comme nous, le lien qu'on a avec nos auditeurs, quelque part,
exactement.
C'est important. Alors, je me tourne vers Georges, tous acteurs, tous engagés. Donc, les actions de Mona Lisa.
Oui, alors, donc Mona Lisa, juste pour rappeler le contexte, ça a été créé en 2013 au niveau national, donc c'est une mobilisation nationale. Et donc, c'est plusieurs...
2013,
oui.
Donc, ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans, effectivement.
Et oui, on est dans la 10e année.
C'est la 10e année. Et donc c'est plusieurs au niveau national, plusieurs fédérations, institutions qui se mettent ensemble et qui se disent en fait on n'a pas la solution tout seul en fait pour réparer, trouver des solutions pour
que les gens aillent mieux. Quoi.
Voilà, enfin trouver des solutions pour les personnes âgées isolées. Nous seuls, on n'a pas la solution, mais c'est à plusieurs qu'on va réussir à trouver ça en fait. Et donc en se fédérant ensemble à travers Mona Lisa, on parviendra à trouver des solutions parce que un tel a un bout de la solution que l'autre aussi pourra compléter en fédérant leurs énergies quoi.
Alors quand on dit un tel, ce sont des associations.
C'est des associations, donc c'est par exemple des associations caritatives. On a le Secours catholique par exemple, nous qui est présent ici en Charente et qui nous accompagne bien. On a aussi des centres sociaux,
comme celui de Thibault à Mansle.
Voilà, à Mansle, l'Espa. Ouais.
Oui, les centres sociaux qui se basent sur des bénévoles. C'est une association, mais c'est bien basé sur des vraies personnes. L'association, elle est rien sans ses bénévoles. Donc c'est vraiment les bénévoles qui portent la dynamique Mona Lisa.
Donc des bénévoles aussi dans des associations...
Telles que la Croix-Rouge peut-être.
La Croix-Rouge, la présidente...
Je sais qu'il y a les petits frères des pauvres.
Et voilà, et donc la bonne nouvelle, c'est effectivement les petits frères des pauvres qui viennent de s'installer là sur le Grand Angoulême et qui ont monté une équipe citoyenne donc sur le Grand Angoulême et qui ont une vingtaine de bénévoles par exemple, effectivement, qui se sont constitués là depuis 2 ans.
Alors d'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai une voisine qui s'appelle Warda et qui vous passe le bonjour parce qu'elle m'a dit... Je les connais bien et tu leur diras bonjour.
Eh ben, on peut lui retourner, enfin on la croise souvent, Warda, ouais, tout à
voilà.
Fait. Ouais. Eh ben, Warda qui est donc effectivement la référente Mona Lisa sur l'agglo de Grand Angoulême.
Donc elle travaille, je ne pense pas qu'elle nous écoute
non,
ce matin,
ouais.
Mais
c'est
voilà.
Ça. Ensuite, on a les CCAS aussi, les centres communaux d'action sociale dans toutes les mairies qui œuvrent vraiment pareil au quotidien avec des équipes bénévoles qui font notamment de la visite à domicile. On a aussi des organismes paroissiaux, par exemple dans le sud Charente, on a la paroisse du sud Charente qui est assez mobilisée également.
Vous n'avez pas le diocèse d'Angoulême là, non?
On n'a pas créé de lien encore avec le diocèse d'Angoulême. On avait
ça a développé,
ouais. On avait Saint-Vincent-de-Paul à une époque, et puis et là je sais pas si.
Après on a des élus aussi beaucoup sur certaines communes qui prennent le relais, qui s'intéressent à l'isolement, qui œuvrent pour lutter contre l'isolement. Donc les élus s'en saisissent aussi pas mal sur beaucoup de territoires.
Et puis des institutions telles que la plateforme des aidants, l'UNA, des structures qui font aussi de l'aide à domicile, donc la DMR, qui avait d'ailleurs été précurseur en fait dans Mona Lisa, qui avait développé, qui faisait partie en fait des pionniers, on va dire, et qui avait développé en Charente Mona Lisa. Et puis le conseil départemental aussi, ça c'est important de le souligner parce que c'est le financeur en fait principal en fait de cette dynamique Mona Lisa. Et voilà, et donc tout ce beau monde, toutes ces forces, en fait, toutes ces énergies s'associent, se mettent ensemble, coopèrent pour pouvoir développer donc ce que Annabelle a très bien dit tout à l'heure, des liens sociaux entre les personnes. C'est-à-dire faire en sorte de tisser des liens entre d'un côté des bénévoles, mais aussi des personnes qui parfois peuvent elles-mêmes être seules, se sentir seules, mais vouloir donner du temps et aller rencontrer d'autres personnes, eh ben, c'est un bénévolat qui permet en fait de sortir de son isolement aussi.
Bien sûr, des gens qui se sentent impliqués.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Mona Lisa, ça va être la mise en lien finalement de personnes sur le territoire de la Charente pour que les gens se sentent un peu moins seuls, quoi. Et combler donc du coup toutes les problématiques que Annabelle a décrites tout à l'heure.
Voilà, pour faire vivre le ensemble qu'Annabelle nous parle.
Exactement, c'est ça. Et c'est du sur-mesure, ça c'est important de le dire, quoi. C'est-à-dire à chaque fois, en fait, on essaye de trouver la bonne personne qui correspond aux attentes de la personne isolée, enfin qui soit elle-même en fait, s'est dite isolée et a appelé le numéro de Mona Lisa pour être identifiée. Ou alors c'est aussi les enfants, la famille qui nous appellent pour nous dire ben voilà, j'ai ma maman ou mon papa qui souffre d'isolement, et donc est-ce que vous pouvez faire éventuellement quelque chose pour lui ou pour elle. Et donc on va trouver avec une équipe citoyenne, donc on a beaucoup d'équipes citoyennes qui maillent le territoire de la Charente, donc on est à peu près pas présent sur tous les territoires. Et on a des équipes citoyennes, donc toutes celles que j'ai citées, hein, soit un centre social, un CCAS, une équipe associative de secours catholique ou autre. Et donc nous, on va essayer de mettre en lien des bénévoles avec des personnes isolées.
Donc, d'organiser des projets, je suppose.
Exactement. Donc ça peut être soit des visites à domicile, par exemple. Donc ça, c'est souvent ce qui est demandé dans un premier temps, de la visite à domicile régulière, ce qu'on appelle la visite de courtoisie. Ou alors ça peut être également des journées conviviales, collectives, et ça on en avait organisé à peu près plus de 200 l'année dernière, avec toutes les équipes hein, éparpillées, mais il y a pas mal d'actions collectives qui existent également et qui sont faites pour les personnes âgées isolées.
Actions collectives, c'est-à-dire action manifestations, ateliers,
ouais,
des
alors
sorties.
Ça peut être
une illustration. Ouais, sur notre territoire, il y a un mois, on s'est retrouvés au jardin, donc à Manlien, un parc floral qui est magnifique. Oui. Donc on a fait pour les plus mobiles une petite balade dans le parc floral. Certains qui étaient un peu moins à l'aise avec la marche sont restés et ont fait des pastels, donc on a fait une activité pastel, voilà, donc ça a permis à tout le monde de se retrouver. Nous on a la chance au centre social d'avoir un cuisinier qui nous avait fait un bon gâteau.
Fallait nous inviter.
Mais la prochaine fois avec plaisir.
On a une chanson maintenant, je crois que c'est ton choix sûrement d'ailleurs, Thibaut, si je te dis Come Together, tu me réponds quoi?
Les Beatles.
Bah oui.
Faut que je réponde les Beatles.
Pourquoi ce choix d'ailleurs de chanson?
Je vais être très honnête.
Ah oui, dis-moi.
C'est pas mon choix, c'est Georges qui a mis ça.
Ah bah alors vas-y.
Je balance. Ensemble, together.
Bah voilà.
Ensemble.
Évidemment, on se retrouve après.
Down to his knee. Got to be a
Over You. Ah ben non, c'est Over You, Over Me. Je coupe la chanson provisoirement, en tous les cas, on en aura d'autres chansons durant encore une heure où nous sommes ensemble, parce que nous avons quelqu'un au téléphone, figurez-vous, et cette personne s'appelle Jean-Claude, il nous vient de Mialet, c'est en Dordogne, et il voudrait s'adresser à Annabelle, tout simplement. Jean-Claude, tu es en ligne.
Bonjour Jean-Claude.
On t'entend pas, Jean-Claude?
Bonjour madame.
Ah, quand même.
Bonjour
oui,
Jean-Claude.
Non, ça y est, ça marche mieux. Je voulais vous remercier pour ce que vous venez de dire tout à l'heure. Les cinq branches de l'arbre.
Ah oui?
Je me cache pas. J'ai 70 ans maintenant là. Je vais les attraper. Et tout ce que vous avez dit, j'y suis passé, c'est la vérité exacte.
Bon, mais tant mieux alors.
Pas de surprise.
Donc vous avez travaillé, enfin vous avez traversé donc ces années-là, et puis il y a des branches qui sont en train de se casser, c'est ça?
J'ai vécu tout ce que vous avez dit là.
D'accord.
Et j'ai tout vécu ça.
Et comment vous l'avez vécu?
À 50 ans le métier. D'accord. Disons sur 50 ans, hein, à partir de 18 ans. Hein,
d'accord. Et donc
que ça a commencé.
Ouais,
et la vie familiale, tout ce que vous avez dit, tout est impeccable. Ça j'ai tout vécu et subi.
Et subi.
Et subi, parce que j'ai un très gros inconvénient là-dessus.
Ça a été compliqué pour vous?
Oui, ça l'est encore. Parce qu'il en reste, il y a des restes encore sur de la vie. Il y a encore des restes, et il y a des restes de santé que l'on paye maintenant.
Ben oui.
Et de votre côté, est-ce que vous essayez de faire des choses pour justement sortir de cet isolement que vous dites subi?
Pour
Pour sortir de l'isolement, est-ce que vous faites des choses,
vous
voyez du monde?
Moi,
ouais. C'est-à-dire vous arrivez à avoir du monde, fois, ouais. Des anciens collègues peut-être ou
Il appelle la radio.
Ouais, il appelle.
Ah ben la radio, moi il y a 30 ans que j'y suis.
Ah oui.
Que j'ai commencé pour me changer et pour me changer les idées à l'époque.
D'accord. En tout cas, on peut
et
vous
là,
en...
ça a bien changé, c'est vraiment formidable.
Hmm.
Ça a remis le moral, disons.
C'est un peu le sentiment de ne plus se trouver tout seul, d'être avec plusieurs qui ressentent la même chose.
Voilà, mais je suis tout seul.
Ben oui.
Et là, c'est très dur à avaler la pilule.
Comme souvent, oui. Et est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage? Est-ce que vous êtes encore en capacité d'aller, je ne sais pas moi, auprès des clubs, auprès de votre commune, auprès de choses?
Non, j'ai arrêté beaucoup de choses. Non, les clubs, j'en fais plus. Je ne veux pas faire partie. J'ai arrêté mes voitures. Par contre, j'ai un truc que j'ai gardé, que j'ai tous les matins ici chez moi, les infirmières. J'ai une infirmière qui passe me voir, me donne remonter le moral tous les matins.
Très bien.
Et de bonheur.
Et de bonheur, oui.
Et ben, ça ne me fait pas sortir du lit.
Ça fait une rencontre comme un rituel, effectivement, ce passage de cette infirmière qui vous redonne le baume pour passer la journée, au moins.
Ah non, non, moi, après la journée, je me débrouille.
Je fais
ma cuisine, je fais tout ce qu'il faut. J'ai des copains ou deux qui passent me voir, j'en ai avec moi là actuellement.
Ah super.
Eh ben, très bien, dites bonjour aux copains de notre part.
C'est
alors.
Mon cher Jean-Claude, si tu veux les coordonnées, reste à l'écoute, puisque à la fin de l'émission, on les donnera. Les coordonnées de cette... C'est une association, en fait, ou pas?
C'est une...
Oui, on se reverra demain matin, Bruno.
Oui, mais là,
je... ne veux pas vous les retarder, là.
Non, non.
Et merci de m'avoir reçu.
Je t'en prie, à bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
À tous.
C'est une association du coup?
Alors hein, c'est pas une association, c'est un regroupement d'associations ou de structures. En fait, c'est une coopération plutôt. On parle d'une coopération où il y a
d'accord,
plein de voilà, différentes structures qui se mettent ensemble, mais il n'y a pas d'entité juridique Mona Lisa en fait, à proprement parler. À part au niveau national. Au niveau national, oui, mais sur la Charente, enfin on est vraiment, c'est tout le monde ensemble.
Mais on aura quand même des coordonnées à donner en fin
de l'émission. On aura quand même, oui, on a une hotline, un numéro de téléphone, effectivement.
Je compte sur toi, Georges.
Ouais, oui, pas de problème.
Un Jean-Claude chasse un autre.
Ah.
On a un autre Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, on t'écoute.
Bonjour, eh bien, bonjour à vos invités.
Bonjour.
Mais je voulais savoir si vous connaissez le groupe, enfin l'association, qui s'appelle Secanto.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais on s'est intéressé du coup de connaître.
Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots. Donc c'est une association qui a été créée par des étudiants de Toulouse qui se sont aperçus que le dimanche après-midi, dans les EHPAD, il n'y a pas d'animation du fait que les animateurs et animatrices sont chez eux en congé. Donc, ils ont formé cette association. Nous sommes, je crois, près de 800 bénévoles en France, quand même. Mmh. Et nous allons chanter. Alors, moi, j'habite Cognac. Et nous allons chanter dans deux EHPAD de Cognac tous les 15 jours. Et nous faisons participer les résidents et résidentes à chanter.
Super.
Et on les distrait pendant pas moins de deux heures.
Mmh. Et il y a les coordonnées de cette association ? Vous avez les... si des gens veulent vous retrouver ou si nous-mêmes on souhaite, si on entend parfois il y a des bénévoles qui nous appellent, enfin des gens qui veulent être bénévoles, qui nous appellent, et du coup oui. On peut faire le lien avec des associations. Est-ce que vous avez, qui on peut appeler pour avoir un lien, un contact ?
Écoutez, je pense pouvoir vous donner les coordonnées de celui qui est responsable à Cognac. Hein.
Oui.
Je ne pense pas qu'il sera contre. Alors, le temps de trouver son nom. Ne quittez pas.
Oui.
En attendant, vous savez que vous êtes sur RDC, hein, tous.
Mais en attendant, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le dimanche, juste pour préciser, là, cette question du dimanche après-midi, elle est souvent, on nous le dit, que c'est le moment le plus difficile, ouais, à traverser, dans la mesure, oui, où ça renvoie au fait qu'on... Effectivement, avant, c'était le jour de la...
Le jour
en famille,
là.
Le jour convivial, oui, les amis. Enfin, le dimanche, c'est vraiment... C'est chargé de sens, quand même. Et quand on se retrouve seul un dimanche, c'est souvent des témoignages, effectivement, qu'on entend qui sont difficile. Alors c'est super, cette association Secondo, c'est super de
c'est
de
très
faire
drôle
ça.
Parce que moi je ne m'ennuie pas, j'ai pas le temps, mais dimanche j'aime pas.
Ah ben voilà,
comme quoi.
Le dimanche, je sais pas, ouais.
Allô ?
Oui ?
Oui, alors écoutez, moi je vous propose la chose suivante, c'est de contacter le responsable pour savoir si je peux, s'il veut bien que je donne les coordonnées, et puis je vous rappelle à ce moment-là. L'émission a lieu jusqu'à quelle heure ? Midi ?
Jusqu'à midi, j'y sais.
Bon, ben ça va, on a une petite heure devant nous. Hein.
Oui,
alors on fait
un
comme
peu
ça,
moins.
Je vous rappelle.
Il n'y a pas de souci.
D'accord. Eh bien, à tout à l'heure.
Merci. À tout à l'heure, mon brave.
Merci beaucoup.
De rien.
On dit jamais 203. Ben écoutez, j'ai un troisième appel. Cette fois-ci, après deux messieurs, c'est une dame. Tu ne seras pas toute seule, Annabelle, au moins. Là, je vous emmène en Dordogne. Elle s'appelle Joël. Joël, c'est à vous.
Oui, bonjour.
Bonjour, Joël.
Bonjour Annabelle, je viens compléter juste ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que les branches de l'arbre tombent les unes après les autres, ce qui est vrai. Et par contre, moi, je n'ai pas ce problème-là de souci d'avoir perdu des collègues de travail, parce que je n'ai jamais pu y travailler grâce à un drôle d'handicap qui est la perte de la vision.
Ah oui.
En 1983, j'ai perdu un œil suite à une opération sabotée. Là, il me reste un dixième de l'autre œil avec des corrections.
Mm-hmm.
Et ce que j'ai constaté, là, la société va mal, c'est sûr. Le Covid a beaucoup aidé à l'isolement. Mais ce que j'ai remarqué là, moi, vivant en campagne, que les gens, si vous n'allez pas vers eux et leur demander quelque chose de précis... Ils ne vous voient pas, mais seulement il faut le leur remettre au centuple.
Oui.
Voilà ce qu'il y a aussi qui aide beaucoup à l'isolement des personnes.
Oui, il y a effectivement, parce que c'est, quelque part, c'est une prise de risque, hein, la relation à l'autre. Donc,
voilà, exactement, oui. Oui.
Donc, c'est vrai qu'en plus, alors, les facteurs pour arriver à une situation d'isolement, vous l'avez très bien dit, vous, ça a été effectivement la perte de la vision. D'autres,
oui,
ça peut être juste la perte d'un travail,
d'autonomie.
Bien sûr, qui fait que quelque part, eh bien, on se rend bien compte qu'on est de plus en plus seul.
Oui.
Ben, ce qui est très bien, Joël, chez vous, c'est que vous en avez conscience. Donc, vous mettez, dans ce que j'entends, c'est que vous mettez quand même des choses en œuvre. Mais c'est plus aussi une déception que j'entends, que c'est aller vers les autres, mais que vous devez, qui sont en attente, quelque chose de vous, en fait.
Oui, mais c'est-à-dire que moi, étant depuis l'âge de 30 ans, avoir perdu cet œil, j'ai eu l'occasion de me débrouiller souvent toute seule. Et par habitude, je fais le travail dans la maison et autour de la maison, mais ailleurs, je ne peux pas être indépendante. Alors, c'est pour ça que je comprends l'isolement des gens.
Mmh. Oui, et puis c'est peut-être un risque aussi. Effectivement, ce handicap-là, le fait de ne pas voir, est-ce que doit être plus compliqué pour aller vers les autres ?
Mais je reconnais les gens seulement à la voix des gens que j'entends à peu près, soit qui téléphonent ou quelque chose, mais physiquement, je suis incapable de les reconnaître.
Mmh. Mmh. Dans différentes associations, hein, nous, la différence, en fin de compte, on met en place des choses, hein, pour accueillir tout type de personnes présentant aussi des handicaps. Alors c'est vrai qu'il faut aller au-delà des représentations aussi que les uns et les autres se font. On a accueilli, nous, il n'y a pas longtemps, dans l'équipe, une personne malvoyante aussi, notamment sur des ateliers de jeux de société, tout ça. Et notre première impression du départ, c'est qu'on ne va pas lui proposer ça, parce que du fait qu'elle ne voit pas, elle ne pourrait pas jouer.
Oui, je comprends, oui.
Sauf que la réalité est tout autre. Elle peut jouer quand même. C'est comment, elle, avec nous, on s'adapte pour justement lui permettre de jouer avec d'autres.
Voilà, mais l'adaptation, justement, venant des autres, est difficile souvent.
Oui, parce que les... comment dire, on reste sur nos représentations, donc on porte une intention à l'autre. On se dit, elle ne voit pas, donc elle ne peut pas jouer. Sauf que de votre côté à vous, c'est faire comprendre aux gens, c'est pas parce que je ne vois pas que je ne peux pas faire des choses. Une fois qu'on a compris, eh ben, on peut travailler et faire des choses ensemble et se rencontrer surtout.
C'est accepter le handicap et le faire accepter par les autres, c'est ça que tu dis à peu près ?
Oui, c'est reconnaître la différence. Mmh. Au-delà du handicap, c'est que, alors effectivement, la perte de la vue est un handicap, mais pour autant, vous êtes capable, Joël, de faire plein de choses. Et c'est ça qu'il faut montrer et expliquer aux gens.
Mmh. Oui, mais justement, l'isolement, on habite des lieux dits, on a des voisins, on ne voit pratiquement jamais, mais c'est ce retour que les gens attendent et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne revient pas.
Mmh. Mmh. Est-ce que justement, les uns les autres, vous avez ressenti dans vos démarches, avec toute l'expérience que vous avez maintenant, est-ce que c'est plus dur d'être isolé en ville qu'en campagne ?
Le handicap... Alors, les effets des situations d'isolement sont les mêmes, qu'on soit en ville ou en milieu rural. Pour autant, effectivement, ce qu'explique Joël là, c'est plus le problème de mobilité. Donc, effectivement, en ville, quand on a encore ses capacités à se mouvoir, à se déplacer, il y a des choses qui existent. En campagne, quand on est dans un lieu dit où il y a 3 ou 4 personnes et qu'il faut juste se déplacer parfois, ne serait-ce que pour aller faire les courses, ça devient compliqué quand on est en situation de perte d'autonomie et notamment quand on ne peut plus conduire. Ça aussi, c'est un des facteurs où on disait l'autre fois, le passage à la retraite peut être un facteur essentiel de rupture de vie qui amène à une situation d'isolement subi. Le fait qu'on a toujours conduit toute sa vie et que pour X raisons, on ne peut plus conduire et plus prendre sa voiture est aussi un facteur qui accélère ce phénomène d'isolement. Pour autant, il y a des stratégies et des choses qui sont mises en place par les collectivités, des moyens, le milieu associatif. On développe tout un tas de transports entre guillemets solidaires et tout ça. Mais ce qui manque aujourd'hui sur nos territoires, c'est peut-être des transports ou des moyens de mobilité qui répondent à des situations individuelles. Personne n'est capable aujourd'hui, mis à part les services de taxi ou autres, mais personne n'est capable dans les champs associatifs de répondre à cette demande-là, parce que ça demande des moyens très très importants.
D'ailleurs,
et humains, et de véhicules, etc.
Dans les dernières informations que j'ai lues cette semaine, Angoulême a mis par exemple une navette gratuite pour se déplacer sur tout le centre-ville, mais ça encore c'est pour les villes. C'est beaucoup plus dur à mon avis en campagne. Et justement, vous, vos bénévoles, ils interviennent plus en ville ou en campagne ?
Pareil, en fait on a beaucoup d'équipes quand même sur l'agglo d'Angoulême. Et notamment, alors l'agglo d'Angoulême, elle est grande aussi. On a beaucoup d'équipes autour d'Angoulême, la ville d'Angoulême et puis la périphérie proche, c'est-à-dire
Île-des-Pagnac,
voilà, la Couronne,
Saint-Michel.
Voilà, ça va jusqu'à Brie. On a une CCAS à Brie là qui est assez dynamique. Mais par contre, après, quand on va plutôt Grande Couronne d'Angoulême, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, comme à Paris, la Grande Couronne. Là, on a effectivement on est quasiment en milieu rural en fait là, et on a peu d'équipes citoyennes. Enfin, c'est plus compliqué. Là, par exemple, j'en profite pour dire, on a une personne isolée là qui vient de nous contacter, qui est sur Dignac Et là, pour le coup, on n'a pas d'équipe citoyenne. C'est la deuxième personne qui nous appelle sur Dignac. Une deuxième personne qui nous appelle sur Dignac et on n'a pas de solution. On avait essayé de contacter la mairie, parce que souvent, on contacte aussi les mairies, voir si elles connaissent peut-être des personnes qui soient bénévoles ou qui pourraient trouver une solution. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, on a sur Dignac, donc pas de solution pour le moment. Quoi. Alors, on trouvera, hein, je suis sûr qu'on trouvera. On va tout faire pour, mais voilà. En tout cas,
merci Joël, on vous libère.
Merci et bon courage à tout le monde et bonne journée.
Mais bien sûr, à
merci,
bientôt.
Au revoir.
Hein.
Au revoir.
Bon, une petite pause musicale, ça vous dirait? Allez, pas de problème. Voici, puisque en même temps, on a parlé d'handicap, voici une chanson toute indiquée. Je parle avec les mains, vous voyez de quoi je veux dire. Savoir aimer, Florent Pagny.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense, ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer.
On a un retour de quelqu'un. Vous aviez tout à l'heure pas pu prendre les coordonnées pour Jean-Claude. Eh bien, Jean-Claude de Cognac est de retour avec nous. Voilà, bien. Jean-Claude, on vous écoute.
Oui, amis bénévoles, rebonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai pu contacter le... Excusez-moi, parce qu'il y a un écho dans le téléphone, là, ça fait drôle. Alors, j'ai pu contacter le responsable du petit groupe de Secanto à Cognac, où nous sommes une demi-douzaine, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et donc, il m'a autorisé à vous donner ses coordonnées. Vous avez quoi noté?
Oui.
Alors, il s'appelle Jean-Pierre Arnaudet, A-R-N-A-U-D-E-T. Et vous pourrez le joindre au 07 87... 82 72 32.
Super, très bien. Ben merci. Hein. Et Secondo, c'est uniquement sur Cognac pour ce qui est de la Charente, ou il y a d'autres territoires où vous êtes aussi actif?
Non, je ne crois pas. Sur la Charente, je crois qu'il n'y a que Cognac.
D'accord.
Nous avons rencontré un monsieur de La Rochelle qui, lui, souhaiterait aussi monter un petit groupe. Mmh. Mais c'est plus la Charente, c'est la Charente-Maritime, pour ne pas dire inférieure.
Attention. Je crois qu'il y a des Saint-Ongers qui nous écoutent aussi.
Il y en a qui vont être contents.
Oui, ouais, non, mais je plaisante. Ok, je ne suis pas charentais, ouais.
Très bien.
Personne n'est parfait. Hein.
Ben bravo, voilà, merci en tout cas. Vous. Bravo à vous aussi, hein, parce que c'est vrai que cette question du dimanche, elle est, enfin je le redis là, elle est effectivement assez fondamentale, quoi, assez importante.
Ben, oui, c'est vrai.
Très bien.
C'est récurrent parce que c'est un petit peu partout pareil. Là.
Ouais. Ben, merci beaucoup.
Voilà, ben, faites un bon usage.
Ouais, merci bien. Au revoir.
Et au revoir.
Au revoir. Au revoir Jean-Claude, au revoir. Merci.
De rien.
Alors, on va peut-être avoir un peu quand même entendre la voix maintenant de Thibaut. Il n'est pas beaucoup intervenu, notre Thibaut.
Oui, Thibaut, qu'est-ce qui t'arrive?
Je trouve que mes collègues parlent très bien, c'est pour ça.
Oui, de toute manière, on n'aura jamais assez du temps de cette émission. Hein. Faudra revenir, c'est obligé.
Hein. Avec plaisir.
Évidemment. Hein. Quel est ton rôle au sein de Mona Lisa, finalement, Thibaut? Parce que responsable de com, ok, mais c'est vaste.
Alors, il y a double casquette. Il y a responsable de com, donc au niveau départemental, c'est-à-dire faire des affiches, prendre contact donc, avec la radio, par exemple, voir
les
comment
médias.
On peut faire connaître notre dispositif au mieux. Et je suis aussi référent de coordinateur sur le Nord-Charente, donc Mansle-Ruffec.
D'accord.
Et les campagnes. On parlait tout à l'heure de mobilité et de ruralité. Ça me parle bien,
parce que
on est en plein dedans. Donc, c'est-à-dire coordinateur, c'est animer la vie des équipes, proposer ces temps collectifs dont on parlait tout à l'heure, repérer les personnes isolées, avoir un listing de bénévoles et voir quel bénévole peut intervenir avec quelle personne en fonction des affinités et des rencontres humaines, puisqu'il y a ça qui se joue derrière. Tous les bénévoles n'interviennent pas chez toutes les personnes âgées indifféremment. On n'est pas des numéros, on n'est pas des dossiers. On essaye de vraiment rencontrer les personnes. Donc ça veut dire rencontrer les personnes isolées, comprendre qui elles sont, comprendre ce qu'elles attendent, ce dont elles ont besoin, ce qui pourrait leur faire plaisir, et trouver le bénévole à mettre en face.
Alors justement, la personne qui nous écoute actuellement, donc derrière son poste de radio, elle doit peut-être se dire, moi je donnerais bien de mon temps, je deviendrais bien bénévole avec eux, mais je me sens peut-être pas capable de le faire. Peut-être pas une formation, peut-être pas le niveau d'études, etc. Donc Annabelle, toi tu préconiserais quoi ?
Ben, disons qu'effectivement, c'est d'abord une rencontre avec ces gens qui ont juste l'envie, parce que le bénévolat, souvent, chacun en a sa propre représentation. C'est comment on l'accompagne, Thibault l'a très bien dit, c'est avant tout notre boulot de mettre des gens en lien. Mais pas n'importe comment, parce que quand on va rendre, notamment sur les visites à domicile, c'est souvent des personnes qui sont assez avancées en âge, hein, qui ne peuvent plus sortir de chez elles, parce que si c'était le cas, on essaierait effectivement de trouver des moyens pour les ramener sur du collectif, pour voir encore plus de monde. Mais quand ça, c'est pas possible et que la visite à domicile est le seul moyen pour garder un lien, on essaye d'équiper à la fois le bénévole sur sa posture. Il y a certaines limites à avoir. Tout le monde n'est pas en capacité d'aller entendre des confidences aussi, souvent, parfois, qui peuvent perturber. Hein. Il y a des sujets comme la mort qui sont évoqués, comme l'envie d'en finir. Donc, c'est vraiment des postures d'écoute. Et ce qui est intéressant, c'est que le bénévole ne sera jamais seul. Thibault l'a très bien dit, il est coordinateur d'une équipe, c'est-à-dire qu'il y a toujours un référent dans une équipe et il y a d'autres bénévoles qui rencontrent, en fin de compte, les mêmes situations. Donc, c'est avant tout mise en lien de ces deux personnes. On va vérifier déjà si ça matche, hein, si la personne âgée qui accueille s'entend bien avec le bénévole et inversement. Si...
Sans faire un miami.
Alors, bon, on
est-ce
pas...
que ça dépend de la charte ou pas?
Alors, pas faire miami, à Miami, moi je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Souvent on vous dit, il faut surtout pas s'attacher aux gens. Moi j'ai envie de dire, je ne vois pas comment on peut être en lien avec quelqu'un sans un minimum d'attachement. Alors effectivement, ce n'est pas des sentiments d'amour. Hein. Y a dans cette émotion-là, il y a différents degrés. Mais s'il n'y a pas un minimum d'affinité, je ne vois pas en tout cas pour moi, il ne peut pas y avoir lien. Et s'il n'y a pas lien, on ne peut pas lutter contre effectivement ce fléau de l'isolement.
Oui.
Donc il faut ces deux rencontres, j'ai envie de dire, normales, et normal, on pourrait le définir, qu'est-ce qui est normal pour les uns et qu'est-ce qui est normal pour les autres. Mais en tout cas, ce qu'on dans notre accompagnement qu'on propose aux bénévoles, c'est de se dire, ben voilà, vous ne devez pas remplacer les membres de la famille, vous ne devez surtout pas remplacer les professionnels de santé qui interviennent. On n'est pas non plus des psychologues, on est juste des gens qui rencontreront deux personnes qui se rencontrent et qui ont le souhait de se rencontrer pour faire, entre guillemets, tout ce qu'on a envie. C'est-à-dire, ça peut être des temps de discussion, ça peut être des temps de jeu, ça peut être des balades, ça peut être de la lecture, peu importe. Ça va vraiment être déterminé par les centres d'intérêt, à la fois du bénévole et surtout de la personne âgée.
Et est-ce que cette action, finalement, peut s'apparenter aux visiteurs de malades dans les hôpitaux ou alors carrément aux prisonniers dans les prisons ?
Complètement. Oui, complètement. Le lieu de vie, entre guillemets, même s'il est temporaire dans les hôpitaux, en tout cas on le souhaite, le phénomène d'isolement peut toucher énormément de gens. On nous dit souvent, mais pourquoi il y a des bénévoles qui vont faire des visites dans les maisons de retraite ? Eh bien, c'est pas parce que c'est un habitat, entre guillemets, collectif, que les personnes ne souffrent pas d'isolement.
Mmh. Oui, parce que la personne peut très bien aussi se mettre en retrait par elle-même, parce que soit elle n'ose pas, soit qu'elle n'a pas envie. Il y a des gens qui finissent un peu à cariatre.
Oui, aussi.
Et oui, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du coup sur Mona Lisa qu'on n'a pas encore dit, parce que je vois que le temps tourne, il nous reste pratiquement une bonne demi-heure ensemble. Georges, vous qui êtes délégué, vous êtes un peu le chef du groupe.
Sûr. Le boss. Non. Coordinateur,
vous
ça me va bien.
Vous y êtes depuis 2013, vous ou pas ?
Alors moi, j'ai, c'était l'ADMR en fait avant qui portait cette dynamique, qui a été montée. Alors c'était 2013, c'est au niveau national que ça a été créé. En Charente, Mona Lisa s'est développée en 2017.
Ah oui, c'est beaucoup plus récent.
C'est beaucoup plus récent, ouais. 2017, et c'était porté par l'ADMR, la Fédération de l'ADMR à l'époque. Donc il y avait une chargée de mission qui a développé en fait plein de petites équipes Mona Lisa un peu partout en Charente.
Et ils ont laissé la main parce que c'était trop gros pour eux, non ?
Non, parce qu'il y a eu une réorganisation. Enfin, ça c'est. Et puis c'était pas nécessairement le cœur de métier peut-être de l'ADMR aussi que d'animer des réseaux. Et donc du coup, il y a eu un passage de relais qui a été fait auprès de la Fédération des centres sociaux, qui s'est très bien passé. Enfin, l'ADMR, on est toujours en lien avec eux et c'est vraiment un partenariat très fort. Et donc c'est la Fédération des centres sociaux qui maintenant porte la dynamique Mona Lisa et qui, mais avec ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure, plein de coordination locale pour être au plus près, là on a réorganisé un peu les choses pour être au plus près du terrain quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on le voit là par exemple Segundo là, à Cognac, enfin nous c'est une association dont on n'avait pas entendu parler encore. On a une équipe
vous avez bien fait de venir.
Ben oui, on a une équipe, enfin voilà, on a une coordination locale sur Grand Cognac. Mais il y a tellement d'associations, enfin il y a une telle richesse en fait quand même d'associations, des associations des aînés ruraux, il y a des ADMR aussi locales qui avec des bénévoles qui sont aussi actives, des secours catholiques, etc., des élus locaux. Et donc tout ça en fait ça demande un travail quand même de fond. Et donc d'où l'idée qu'il y a une coordination départementale, mais il y a surtout des coordinations locales qui vont faire vraiment ce travail d'aller vers les gens, les associations, etc., pour développer voilà, cette...
Est-ce qu'on pourrait appeler ça des antennes ?
Non, oui, si, ça peut être des antennes, mais c'est surtout des antennes, oui, c'est ça. Enfin, pour faire le relais et continuer de porter la bonne parole, on va dire, entre guillemets, de Mona Lisa, pour donner envie aux gens, en fait, de voilà. En fait, vraiment, notre boulot, c'est de faire en sorte que cette question de l'isolement des personnes âgées, elle soit appréhendée de manière large, la plus large possible, à la fois par les citoyens, les citoyennes, à la fois par les associations, par les élus, par l'ensemble de la population. C'est-à-dire, en fait, c'est de se dire que ce n'est pas que le problème des personnes âgées, c'est le problème de la société en général. Et ça, nous, voilà, c'est le message important qu'on passe, en fait, c'est celui-ci, quoi. Et donc, si on veut porter ce message de manière la plus forte, c'est d'être présent sur tous les territoires.
Et se faire connaître.
Et voilà.
Et c'est pour ça qu'on est là aussi.
Exactement.
Donc, finalement, il n'y a pas de limite d'âge, ni en moins, ni en plus.
Pour les bénévoles ?
Pour les bénévoles et pour ceux qui sont accompagnés.
Alors pour celles et ceux qui sont accompagnés, si, c'est vraiment là, c'est les personnes âgées isolées. Mais par contre, les bénévoles...
Et à partir de quel âge, en fait, vous pensez...
De 60 ans.
60 ans. Ah ben j'y arrive.
Ah ben voilà.
Je suis bon, ça y est, je suis bon pour le service.
Mais je ne suis pas sûr pour les conditions d'isolement, j'ai pas l'impression que tu sois très isolé.
Ah mince, je fais des efforts importants.
Mais qu'est-ce que je vais dire?
Je sais pas, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le maillage du territoire qui est important. Donc on est partout et on est de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de visites à domicile, donc on va mettre en place des visites à domicile. C'est ce qu'on fait le plus et on est un peu parfois catalogué sur la visite à domicile, mais on ne fait pas que ça. Il y a ces temps collectifs dont je parlais, il y a des gens qui ont besoin de temps collectif et pas uniquement de quelqu'un qui vient chez eux. Moi, sur mon secteur, j'ai une bénévole qui a décidé de changer sa manière d'intervenir. Elle faisait des visites à domicile et elle ne s'y retrouvait plus et la personne visitée non plus. Donc, elles ont décidé de, une fois par semaine, elles se retrouvent et elles vont faire des courses ensemble.
Ah oui, bah
donc,
tiens.
Voilà, elles vont sur l'extérieur. C'est une autre manière de venir lutter contre l'isolement. Ça prend vraiment la forme que le bénévole et la personne visitée vont y donner. Il n'y a pas de limite et de bonne manière de faire. C'est vraiment en fonction de la rencontre et de la manière qui correspond le mieux à tout le monde.
Annabelle, une fois que la personne est accompagnée, tout à l'heure on parlait justement qu'il y avait un référent, qu'il y avait des bénévoles et puis des personnes donc chez qui on allait éventuellement ou avec qui on rentre en contact. Ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. Je te regarde et puis voilà, ça me perturbe. Non, je voulais dire, est-ce que en fin de compte, le projet qui est mis en place, est-ce que ça vient plutôt du référent, plutôt du bénévole, ou alors de la personne accompagnée qu'on rencontre comme ça et ça vient direct? Ou est-ce qu'il y a des règles à respecter?
Alors oui, les règles à respecter, c'est effectivement la charte qu'on fait signer et qui nous vient du national, c'est-à-dire avec certaines valeurs, pas tenir des propos racistes, qui nous paraissent, nous, classiques aussi, mais par contre, c'est bien de les rappeler, puisqu'on est quand même dans la relation humaine et que...
Et qu'il ne faudrait pas profiter de la faiblesse des gens.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire que ni de la faiblesse des gens, de la personne âgée, effectivement, mais ni non plus de la faiblesse du bénévole, puisque il y a certaines personnes âgées aussi qui pourraient, entre guillemets, s'accrocher tellement au lien, à la relation avec ce bénévole, qui pourrait être le déranger et l'appeler, admettons, 10 fois par jour, quoi, par téléphone, etc. Donc, si on veut que ça marche, cette affaire-là, et notamment lors des visites à domicile, il faut qu'il y ait un cadre minimum qui soit entendu et respecté et par le bénévole et par les personnes âgées.
Alors, on peut avoir, par exemple, 3-4 petits points de cette charte?
Ah oui.
Ah, ça y est, c'était une colle.
Non, c'est pas une colle, elle est où? On la connaît pas par cœur, on n'a pas appris notre poésie. Effectivement, cette charte, elle dit déjà que le bénévole ne doit pas recevoir de dons ou de cadeaux, ne doit pas être légataire, ne doit pas recevoir d'argent de la part de la personne âgée. On dit aussi que la personne qui est visitée ne doit pas... entre guillemets, appeler intempestivement le bénévole.
Et la place de la famille également, comment la famille est prévenue aussi de ça, de la visite,
et de ne pas se substituer.
Et de ne pas se substituer non plus, effectivement, voilà. Enfin, il y a la place aussi, par rapport à la famille.
Ça pose aussi les limites par rapport aux professionnels de santé. On ne se substitue pas. On avait un monsieur tout à l'heure qui parlait des infirmières qui viennent le matin. On n'est pas infirmier. On ne vient pas apporter de soins ou de toilettes ou de choses comme ça. On est vraiment sur une relation d'échange. Mmh. Voilà, ça pose des limites aussi.
Alors, le temps que notre petite Annabelle cherche éventuellement 2-3 renseignements, moi, je vous propose d'écouter une petite chanson. C'est Luz Casal, « Je reviens te chercher ». Ça rentre complètement dans la lignée de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
Absolument.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé.
après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ces paliers. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
C'était Luz Casal, Je reviens te chercher, une chanson de Gilbert Bécaud. Et là, c'était une version faite en 2011. Je ne connaissais pas du tout. Merci Thibaut, en tous les cas, de nous donner ça dans la liste. C'est très sympa. Comme ça, on apprend aussi des choses. Alors, ma petite Annabelle, as-tu trouvé ce que tu voulais nous dire?
J'ai retrouvé ma copie, oui.
Génial.
Donc, effectivement, ben, cette charte, si vous voulez, donc, elle est surtout basée sur des principes un peu éthiques. Donc, on demande à la fois aux bénévoles et aux personnes accompagnées de faire attention à une clause de non-discrimination, c'est-à-dire que nul ne peut faire l'objet donc, d'une discrimination en raison de son origine, notamment éthique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, et surtout de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de débat, hein, notamment en période électorale. Effectivement, je vous garantis que la politique a été largement partagée entre les bénévoles et les personnes visitées. Mais c'est en fait des règles de vivre ensemble, hein, collective, ou peu importe si on n'a pas la même opinion, mais le bénévole n'est pas là pour convaincre la personne âgée d'avoir les mêmes convictions qu'elle, et inversement aussi. Puis après, il y a tout un tas de choses, notamment l'accès à l'information, que le bénévole et la personne accompagnée ont accès à une information claire, compréhensible et adaptée concernant le projet, le fonctionnement et de l'équipe et aux informations qui les concernent. Et ça aussi, dans les missions, entre guillemets, du bénévole, c'est justement, s'il a connaissance sur le territoire et le lieu de vie de la personne qu'il va visiter, d'être le transmetteur un petit peu de ces informations pour susciter encore une fois l'envie de partager ou d'aller vers quelque chose qui pourrait l'intéresser.
Mais alors pour ça, ça veut dire aussi que sûrement, avec le référent ou avec une équipe justement qui entoure le bénévole, il y a ce qu'on peut appeler un débriefing.
Oui, il y a une vie d'équipe aussi entre bénévoles. Vas-y, Georges,
tu dis. L'idée, c'est que Mona Lisa départementale, justement, permet d'accompagner aussi ces équipes citoyennes pour effectivement alors, des débriefings ou ce qu'on appelle aussi des analyses de pratique. C'est d'ailleurs Annabelle qui parfois se rend dans les équipes citoyennes pour rassembler les bénévoles. C'est sur demande des équipes, hein, ça, elle le demande.
Ouais, ouais.
Et puis, on débriefe effectivement les situations quand parfois c'est un peu peut-être compliqué.
Oui, parce que les bénévoles, ils ont besoin aussi de s'exprimer finalement.
Oui, puis cette vie d'équipe, on se rend compte que plus les bénévoles sont nombreux et plus il y a une dynamique d'équipe où il y a des choses qui sont faites entre guillemets entre eux aussi, permet d'avoir un meilleur engagement auprès de la personne âgée derrière. C'est des lieux, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de temps très formel tout le temps pour dire, voilà, moi j'ai rencontré cette difficulté-là, la dame ne me parle pas, moi je ne me parle pas, j'ai peur du silence, je ne sais pas quoi lui dire à cette personne. Enfin, tout ça, ce sont des faits, entre guillemets, qui, lorsque les bénévoles se rencontrent, peuvent partager. Et ça dédramatise un petit peu. Ce n'est pas que le bénévole est nul ou que la personne âgée est acariâtre ou autre chose. Peu importe ça, c'est comment on partage ce qu'on est en train de vivre, et plus cette dynamique d'équipe va être présente, et c'est là où je rejoins un peu le travail des coordinations locales telles que Thibault l'assure sur le Nord-Charente aussi, sûrement on est plusieurs à la faire, c'est comment on maintient cette dynamique entre les bénévoles, pour surtout pas les mettre eux aussi en situation d'isolement face à des difficultés relationnelles ou de communication qu'ils rencontreraient avec les personnes âgées.
Alors, ceux ou celles qui nous écoutent actuellement, ou bien moi, hein, n'importe qui, veut devenir un bénévole, qu'est-ce qu'on demande à la personne comme qualité ?
Son permis de bénévolat. Alors, comme qualité, effectivement, c'est déjà l'envie. Et puis, on va les accompagner sur une posture d'écoute. Tout le monde n'est pas en capacité d'écouter vraiment. Tout le monde est en capacité d'entendre, hein, sauf les personnes malheureusement porteurs de handicap. Mais sinon, on est tous capables d'entendre. Mais d'écouter vraiment, ça demande une posture particulière. Et c'est sur ça où on va travailler et accompagner les bénévoles par le lien de formation, hein, de journée ou d'atelier spécifique.
Alors, justement, je te coupe deux secondes. Est-ce que ça peut s'apparenter à une formation des personnes qui ont travaillé éventuellement pour SOS Amitié ?
Oui, je pense que... Alors, je ne connais pas de manière très pointue la formation qu'ont les bénévoles d'écoute, hein, de SOS Amitié, mais on est sur quelque chose de similaire.
Pour connaître du coup là, le SOS Amitié, effectivement, enfin, c'est l'approche... Alors, c'est Carl Rogers, c'est un...
Un
philosophe, ça, voilà, que tu connais bien, Annabelle.
Un psychologue
qui a travaillé justement sur cette question d'écoute active. C'est-à-dire, c'est une écoute qui, et en renvoyant des questions à la personne, c'est de faire en sorte que la personne soit elle-même, actrice de ses propres solutions et de sa situation. Voilà. Oui. C'est pas de combler le vide en fait et parler à la place de l'autre, mais c'est plutôt en fait de faire en sorte que ce soit l'autre qui parle et qui raconte sa propre vie et qui va, en réfléchissant, enfin en ayant des questions, ben, du coup peut-être avancer et proposer des choses qui sont importantes pour elle-même en fait. Mmh. Et c'est effectivement le même socle, enfin c'est les mêmes fondamentaux on va dire que SOS Amitié.
Oui, parce que ça me venait en tête, oui. Donc c'est pour ça que voilà.
Oui, la mission première, hein, du bénévole qui va intervenir, c'est de créer ou de recréer du lien avec la personne. Alors pour cela, enfin, il n'y a qu'une seule chose, c'est la présence et puis cette posture d'écoute. Et puis le bénévole, entre guillemets, a aussi pour mission de maintenir et de favoriser le lien avec les personnes extérieures, que ce soit la famille, les amis, les voisinages ou le professionnel. Il n'est pas question que le bénévole vienne se suppléer à ça. La personne âgée qui reçoit ce bénévole a déjà des gens qui viennent la voir en semaine, il ne faut pas que le bénévole vienne en plus, vienne prendre la place. C'est vraiment tout ça qu'on va chercher à additionner en fait. Et puis surtout laisser la personne faire ses choix et prendre ses décisions. Parce que sous prétexte de la bonne intention ou de ce qui serait bon pour l'autre, plus on est âgé et plus l'entourage, quel qu'il soit, familial et autre, prennent les décisions à la place d'eux. Non, laissons les gens décider. Ils ont décidé toute leur vie, à 90 ans, ça fait 90 ans qu'ils font leur choix, laissons-les décider pour eux-mêmes et prendre leurs décisions. Ça, c'est important.
On les laisse autonomes.
Exactement.
Une petite chanson, on retrouve après Georges qui a encore plein de trucs à nous dire, et le temps passe vite, mon Dieu que ça va vite. Voici Juliette Gréco, Un petit poisson, un petit oiseau.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, il n'y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Et Juliette Gréco, mine de rien, le petit poisson, c'était 1966, ça nous rajeunit pas tout ça. Hein. La parole est à Georges Bray, le délégué fédéral pour aujourd'hui Mona Lisa, et il a plein de choses à nous dire, Georges.
Oui, et pour celles et ceux qui nous rejoignent peut-être en cours d'émission, donc Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées, donc c'est en Charente pour... Voilà, prévenir de l'isolement des personnes âgées sur tout le territoire donc de la Charente. Mais pas que, hein, c'est donc une démarche nationale. Alors, un petit poisson et un petit oiseau, comment on fait pour se faire rencontrer en fait un bénévole et une personne qui n'ont pas nécessairement les mêmes envies, les mêmes besoins ou les mêmes...
C'est ça. Voilà. Alors, en fait, qui joue le poisson, qui joue l'oiseau?
Ça, en tout cas, on est tous différents et la rencontre, c'est comment on crée des rencontres et c'est quoi les situations qui vont permettre aussi à des gens de se rencontrer. C'est parfois on peut se regarder aussi dans le blanc des yeux et ne rien avoir à se dire, enfin ça peut être un peu difficile. Ouais. Et donc il y a aussi, alors ce qu'a dit Annabelle tout à l'heure, hein, l'écoute, la parole, donc ça c'est important, mais il y a aussi des petits trucs qui sont quand même précieux et qui permettent en fait de trouver des points communs. Donc par exemple il y a des équipes qui vont faire de la marche ensemble, elles vont aller marcher ou à deux ou à plusieurs. Il y a aussi des gens qui font de la lecture. On entendait tout à l'heure la personne là qui était en perte de vue en fait, et il y a des personnes, elle pourrait recevoir des gens qui pourraient lui faire la lecture par exemple du journal ou d'un livre. Il y a aussi des choses artistiques, on n'en a pas parlé, mais on a le journal Le Petit Mona Lisa, qui est un journal qui sort une fois tous les trimestres. Et dans ce journal, on invite les équipes bénévoles, citoyennes, donc à rédiger, à faire un petit article ou à faire des photos, choses comme ça. Ça peut être aussi à goûter, ça peut être aussi des jeux. Le jeu, c'est très important. Enfin, les gens aiment bien jouer, donc souvent, on se retrouve autour d'un jeu. On avait même, par exemple, une équipe où c'était quatre personnes qui se retrouvaient chacune, c'était des femmes, donc chacune chez l'une. Enfin, chacune à tour de rôle, invitait les trois autres, et elle jouait à la belote pendant toute l'après-midi. Et le bénévole, là, simplement, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du covoiturage, en fait, de ces personnes entre elles.
D'accord.
Mais ça, c'est du sur-mesure, hein. Enfin, c'est parce que c'était un besoin, là, qui était, à ce moment-là, posé, quoi. Faire les courses, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités aussi, c'est vraiment du sur-mesure et aux personnes, en fait, de trouver, en fait... ce qui permet la relation, quoi.
Leurs affinités, finalement.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et puis, par exemple, Thibaut, peut-être tu peux nous parler. Je crois qu'il me semble que tu avais parlé d'un gâteau la dernière fois. Ça m'intéresse.
Oui, c'était... En tant que bénévole, comment c'est riche aussi pour les bénévoles. Nous, on a été invités. Alors, on n'a pas encore été. On va y aller bientôt. À manger un gâteau pyrénéen.
Il ne faut pas que tu manges de trop, hein.
Ça va, je suis en forme.
Ah, bah oui, mais bon, tu sais, ça va vite. Hein.
Non, mais alors, un gâteau pyrénéen, moi, je ne connaissais pas. Je ne connais pas encore, mais je vais aller découvrir ça très bientôt. Il faut qu'on fixe une date. Chez une dame visitée, donc isolée, qui a chez elle un four avec une broche, avec il y a tout un système, ça a l'air un peu compliqué.
Donc il y a tout le matériel.
Elle a tout le matériel, elle a un problème pour la mise en œuvre, c'est que tout est assez lourd et il faut de la manutention, qu'elle ne se sent pas capable de faire. Donc on va aller avec quelques bénévoles et quelques personnes visitées chez elle, faire cette petite manutention, on va préparer la pâte et puis on va...
Et ça va être la grosse teuf.
Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour nous aussi, c'est une richesse, c'est une sacrée découverte. Parce qu'on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas du tout.
Ce sont des moments inoubliables.
Oui.
D'ailleurs, tiens, l'un ou l'autre, vous avez peut-être une anecdote à nous dire là-dessus, à nous raconter selon vos expériences, comment ça s'est passé. Parce que si vous êtes responsable aujourd'hui, je suppose que vous avez été avant tout bénévole.
Alors, bénévole dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées, pas nécessaire. Enfin, moi, non.
Non, Georges, pas bien.
Non, mais, désolé. Mais après, oui, c'est... par contre, bénévole dans d'autres associations, oui. Et effectivement, aller à la rencontre de l'autre, enfin, ce que dit Thibaut est important. C'est-à-dire, quand on est bénévole, en fait, on donne de son temps, mais on rencontre aussi... enfin, on découvre des choses, en fait, et on rencontre des gens, etc. Et du coup, j'en profite là aussi pour parler de ça. C'est Unicité, par exemple, qui est aussi sur Angoulême, qui a des jeunes en mission de service civique. Et ces jeunes donc de 18 à 25 ans en binôme vont rendre visite aussi à des personnes âgées. Et ça, c'est très riche aussi dans la relation intergénérationnelle. Enfin, il y a des rencontres qui se font et qui sont très riches, quoi. Thibaut, ouais. Tu voulais... Ouais.
Non, c'est 16 ans.
16 ans, c'est 16, oui, pardon, 16, 25 ans, les jeunes. Oui, pardon, 16, 25 ans.
Même s'ils ont beaucoup de majeurs, il y a quelques jeunes sur le 16-18.
Donc ça permet aussi les rencontres intergénérationnelles. Et les jeunes sont très contents de rencontrer des personnes âgées, leur savoir-faire, leur métier qu'ils faisaient avant, etc. Enfin, ça crée de belles découvertes, quoi. Et pour les personnes visitées, et pour les personnes qui sont visiteuses, quoi. Enfin,
bien sûr,
jeunes.
Mais ça amène beaucoup, de toute manière, du bénévolat en général. Oui. On le fait pour soi, on le fait pour les autres. Et on se sent bien, quoi, finalement. Je vous emmène à Ruffec, parce qu'on a une personne en ligne. Vous devez, je pense, la connaître également. Elle s'appelle Chantal. Chantal, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'écoute votre émission, là. Et figurez-vous, le gâteau à la broche, c'est moi.
Ah.
C'est... Oui.
Voilà. Alors, il faut prendre rendez-vous pour voir comment faire, rebrancher tout ça.
C'est prévu, Chantal,
hein.
C'est prévu, Chantal.
C'est prévu.
Ouais, elle s'inquiète déjà. Hein.
Non, c'est parce que, comme je leur ai dit, j'ai vendu ma maison et il faut le faire avant que je sois partie de la maison.
Alors, j'envoie un message à Christian cet après-midi.
D'accord.
Donc, Christian, qui est le bénévole, qui va visiter Chantal.
Oui.
D'accord. Voilà. Et puis on arrive tous, admettons, ce soir. Hein. Ça vous va, Chantal?
Ah non, il n'y a pas de problème. Moi, la maison a toujours été ouverte.
Pas trop, parce qu'il ne fait pas toujours chaud dehors. Hein.
Oui.
Donc
oui.
Si vous laissez la porte ouverte, vous allez congeler.
Oui, non, mais c'est bien, très bien. C'est vraiment bien, cette émission. C'est vraiment bien, les bénévoles, tout le monde.
Ça remonte le moral à tous, je crois.
Ah oui.
Hein,
oui.
C'est vrai,
oui.
Hein. Mais on se retrouvera.
Et c'est beau tout ce que vous faites. C'est super.
Voilà, vous voyez, vous êtes remerciés déjà.
Voilà.
À bientôt, ma petite Chantal.
À bientôt. Bisous à tout le monde.
Bisous,
merci,
bisous.
Chantal, au revoir.
Ça fait plaisir quand même, des témoignages comme ça.
Bah oui.
Oui, bah c'est un retour de...
Hein, ça revigote.
Oui.
On fait une fois par an une journée, c'est la journée Mona Lisa, où on accueille tous les bénévoles, sont invités à participer à cette journée-là. C'est généralement en décembre. Et on entend effectivement du côté des bénévoles, la joie que c'est que d'être bénévole, le retour. Et puis là, cette année, on aimerait justement faire participer aussi les gens à qui on rend visite, quoi, qui sont, pour qui on lutte contre l'isolement, et qui soient aussi intégrés à cette journée, que ce soit une journée festive, joyeuse et plus ouverte en fait, à l'ensemble en fait, des habitants qui sont concernés par Mona Lisa. Quoi, et pour entendre effectivement ces témoignages-là, et un moment de vie, en fait, parce que c'est ça qui est important, en fait, c'est des moments de vie.
Alors justement, pour cette journée, des portes ouvertes, pourquoi pas?
Pourquoi pas, oui, ça va être, on va peut-être pouvoir goûter le gâteau à la broche du coup, pour de
ouais,
bon,
là, faut en faire plusieurs, mais
faudra en faire beaucoup.
Oui, mais bon, tu sauras faire.
Faut que j'apprenne déjà pour commencer, puis on verra. Non, cette journée dont tu parles, elle était très festive cette année, avec notamment du yoga du rire, parce qu'on parle beaucoup de la posture d'écoute, de ce que
c'est. Une association, le yoga du rire.
C'est
ça une, existe.
C'est une structure.
D'accord.
Oui. Je les avais reçus il y a quelques années.
Donc voilà, on a une. En tout cas, on avait une quelqu'un de formé qui était venu nous faire faire du yoga du rire. C'était un moment vraiment hyper sympa.
Très bien. Hein. Et c'est pour ça que ça te détend.
Ah oui. Voilà, ça fait rire mes collègues, mais oui. Ah, non, on était.
Non, mais Annabelle, elle est moqueuse.
Oui, alors quand il s'agit de moi, toujours.
Et des autres aussi.
Mais
c'est bon enfant, c'est jamais méchant.
Non, toujours.
De moi-même avant tout, donc c'est pas mal. Non, c'était une forte expérience. Effectivement, le rire a quelque chose de très communicatif. Et effectivement, ce lien bénévole et personne, on parle nous souvent de relations d'égal à égal. On voudrait même rayer ce mot de bénévole et de personne visitée, parce que c'est pas ça en fait. C'est juste mettre en lien deux personnes. Parce que la personne qui est âgée, qui a peut-être un sentiment d'inutilité, a encore plein de talents.
Et elle va se sentir valorisée.
Exactement. Et elle apporte beaucoup, beaucoup. Alors que la posture du bénévole, c'est quelqu'un qui se dit, ben voilà, moi j'ai un peu de temps, ça me plairait bien, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est aussi pour travailler son sentiment d'utilité. Et en fin de compte, les retours qu'on a, c'est pas un bénévole qui va donner de son temps, où la personne serait redevable, en fait. La personne âgée serait redevable de quelque chose. C'est vraiment des réelles relations qui se passent, de réelles amitiés aussi qui se créent, de réelles complicités. On sait aussi que des personnes vieillissantes, c'est parfois compliqué de poser, d'échanger sur certains sujets avec sa famille pour pas les inquiéter. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent, qui sont en communion, entre guillemets, et qui nous animent, nous, en tout cas, dans la poursuite de cet engagement-là.
Mais alors, la moyenne d'âge des bénévoles, c'est quoi? Parce que je suppose qu'un petit jeune de 18 ans n'est pas forcément bénévole, parce qu'il n'a pas toutes ces notions inculquées dans sa tête.
Il est sans doute à Unicité, par exemple. Enfin, ce que je vous disais, il y a une vingtaine de jeunes chez Unicité. Alors, ce n'est pas des bénévoles, là, pour le coup, c'est des services civiques. Donc, services civiques, c'est entre le bénévolat et le travail. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, eux, ils ont donc entre 16 et 25 ans. Et puis après, on a effectivement dans la tranche des 25, on va dire 55 ans, on en a quelques-uns, mais très peu finalement, parce que les gens sont en période active, enfin donc généralement moins disponibles, on va dire, pour ou alors ils ont même leurs enfants à devoir gérer, donc c'est souvent moins disponible pour le bénévolat. Et puis à partir de 55 ans, on a, jusqu'à 70, 75, 75 ans, on a des bénévoles, enfin il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent.
Plus peut-être quand ils sont plus sans emploi ou à la retraite, non?
Oui, aussi, alors sans emploi, oui, quelques-uns aussi, ouais, tout à fait, oui. Mais je dis ça, en même temps, sur Angoulême, on a, je vois les petits frères des pauvres et puis les équipes d'Angoulême, il y a quand même aussi des personnes, en fait, finalement...
Plutôt jeunes,
enfin, de 30 ans, quoi, ouais. Et puis avec le Covid, alors ils m'ont dit de ne pas en parler, mais moi je veux quand même en parler, parce que je sais plus, c'est Joël, je crois qu'on avait parlé tout à l'heure, avec le Covid, ça a quand même pointé quand même que c'est quand même une situation compliquée, quoi, que l'isolement des personnes, ça a été renforcé par le Covid.
Mais il faut dire qu'on n'avait jamais connu ça. Hein.
Ben non, c'est ça, ouais. Et même au niveau national, il y a eu des rapports qui ont été portés au niveau national sur cette question d'isolement social des personnes âgées, et je pense qu'on n'en a pas fini, quoi. C'est-à-dire que c'est un sujet qui va de toute façon être de plus en plus important, quoi.
Le bilan est catastrophique, non?
En tout cas, il s'accentue, quoi. Le rapport des petits frères des pauvres qui avait été fait l'année dernière sur cette question montre qu'en fait, avec le Covid, la crise Covid, il y a eu encore une augmentation assez importante des personnes isolées. Ouais.
Un éclatement d'isolement.
Ouais. Et nous, alors, c'est Joël aussi qui en parlait tout à l'heure sur la ruralité. Alors effectivement, nos territoires ruraux sont notamment quand même... alors c'est pas tant, les effets sont les mêmes effectivement de l'isolement, mais c'est quand même plus difficile de trouver des équipes bénévoles à proximité, dans la mesure où c'est bête à dire, mais c'est que les territoires sont moins, il y a moins de densité, quoi, donc il y a moins d'habitants au kilomètre carré, donc il y a moins potentiellement de bénévoles à proximité en fait de la personne qui appelle pour dire qu'elle est isolée, vous voyez.
Bien sûr.
Donc,
Et avec justement le bénévolat qui recule souvent, parce qu'on voit bien, des bénévoles font des fois partie d'une, deux, même trois associations, oui. Et il y a de moins en moins de nouveaux bénévoles. Ça, c'est plus dur aussi à trouver.
Oui, et en même temps, avec Unicité, par exemple, quand on voit des jeunes qui commencent à s'engager, alors certes, ils sont pas rémunérés, hein, ils sont indemnisés, c'est une petite indemnité qui est juste, enfin voilà, de quoi vivre, mais en tout cas ce que font ces jeunes, c'est surtout de découvrir en fait un engagement citoyen, en fait, et qui peut-être plus tard pourra progresser. On a d'ailleurs dans les prochaines années là, l'envie de justement d'aller dans les lycées, d'aller même pourrait pas auprès des étudiants. Les étudiants, ils peuvent avoir aussi du temps. Il y avait quelques étudiants d'ailleurs sur Angoulême qui donnaient du temps aussi. Donc, je pense que ça, c'est un apprentissage en fait. On devient bénévole, à un moment donné, on rentre par une porte, quoi, en fait. Et puis après on fait un parcours. Et ces parcours, ils peuvent être dans plusieurs associations différentes. Toujours faut s'écouter, quoi. Enfin, l'important, c'est de se dire c'est quoi qui compte pour moi, en fait, et on peut pas être de tous les combats.
Quelles sont nos valeurs?
Mais voilà, c'est quoi nos valeurs et c'est quoi les combats qu'on veut défendre et de s'y plonger après, et c'est un bénéfice énorme, en fait. C'est-à-dire, ça permet aussi de devenir quelqu'un, en fait, et d'avoir une utilité pour les autres, quoi.
Alors voilà, la dernière question arrive, parce que ça y est, on arrive à la fin de cette émission.
Déjà.
Comment fait-on, messieurs, madame, pour vous contacter?
Alors, donc, si vous souhaitez, donc, vous avez le sentiment d'être isolé, enfin, si tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ce que vous a présenté Annabelle, vous a parlé, ou bien si vous souhaitez compter pour quelqu'un, vous engager comme citoyen bénévole dans une équipe, ou donner un peu de votre temps. Alors, je dis un peu de votre temps, c'est à vous de choisir, hein, c'est une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, c'est vraiment aussi à la carte. Donc
selon vos disponibilités.
Appeler, selon vos disponibilités, tout à fait. Vous pouvez appeler donc le 05 45 37 33 33.
Je suppose donc, je qu'il doit y avoir un mail peut-être aussi.
On préfère le téléphone. Non, on communique surtout le téléphone, c'est plus simple. Donc 05 45 37 33 33. Et là, vous aurez donc, il y a une hotline, ce qu'on appelle, ça c'est un peu américain, c'est pour dire la ligne téléphonique.
Une
donc,
permanence téléphonique
qui pourra donc après aiguiller en fait sur telle ou telle équipe selon les territoires d'où vous appelez. Donc je redis le numéro 05 45 37 33 33.
Engagé contre l'isolement des âgés, voilà leur credo. C'est Mona Lisa qui était notre invitée ce matin. Pourquoi cet après-midi, je ne sais pas. Je suis déjà partie, moi. On avait le délégué fédéral Georges Bray au micro. Merci Georges de ta visite.
Merci Bruno pour ton accueil.
On avait aussi le référent, la référente, parce qu'attention, c'est une femme. Elle est là et elle tient à sa place. De l'accompagnement, Annabelle Vaudon. Merci Annabelle d'être
Merci
venue.
Merci beaucoup.
Et puis on avait le référent communication Thibaut Perron. Mon Thibaut, merci beaucoup.
Et merci de l'accueil.
Mais je suppose qu'on va être appelé à se revoir quand même. Vous n'allez pas m'abandonner.
Non, oui, parce que
on reviendra avec plaisir.
Normalement, peut-être une émission tous les 2 mois, 3 mois, je ne sais pas trop ce qui a été dit dans les tuyaux.
Peut-être tous les 2 mois.
Vous verrez.
Avec l'idée de venir avec des bénévoles aussi, des équipes citoyennes, pour faire entendre comment ça se passe sur le terrain, etc. Et puis d'écouter aussi les auditeurs. Ils ont à dire. Enfin, moi, je trouve ça intéressant, de cette radio. Ça permet aussi d'être au plus proche de vous, les auditeurs et auditrices.
En parlant d'ailleurs d'auditeurs, merci à Hélène de Montmoreau d'avoir appelé. Merci aux deux Jean-Claude, celui de Mialet et de Cognac. Merci aussi à Joël de Dordogne et puis Chantal de Ruffec. Grâce à vous, on a aussi avancé dans les questions ce matin. Bon, ça va, ça s'est bien passé.
Super.
Vous reviendrez.
Absolument.
Moi, je suis content et j'étais content de vous entendre ce matin. Je vous embrasse. Bon retour, surtout.
Merci.
Et vous, amis auditeurs, je vous retrouve demain matin, tout simplement, la matinale. Nini sera à mes côtés. Yuna, stagiaire pour son dernier samedi également avec nous. À partir de 7h, c'est la matinale. Je me tais parce qu'il est midi 1 minute. Voici vos pubs. À demain matin. Bonne journée, tout le monde.